J'ai entendu la nouvelle au flash de France Culture, je crois, à midi. J'ai entendu que en Angleterre, ils vont faire passer la retraite à 68 ans. Ça, c'est bien, moi, je trouve. Et encore, c'est pas assez. Tu vois, ma mère, elle a 88 ans. Hein, elle se plaint tout le temps, elle tient pas debout, elle dit on peut pas garder la maison parce que j'ai pas assez d'argent. J'ai dit, et si tu bossais un peu, hein, au lieu de te plaindre tout le temps. Elle se lève trois fois par nuit avec ses angoisses, tout ça. J'ai dit, crois-moi que si tu avais une bonne journée de boulot, tu dormirais la nuit. Et puis, regarde, t'es pas toute seule. Regarde Henri Salvador, il a ton âge. Elle pourrait chanter ou ouvrir un magasin ou je ne sais pas quoi. Enfin, ramener la thune. Parce que comme j'ai dit, il faudrait changer le magnétoscope. Il faudrait que tu me payes les cassettes. Bon, remue-toi. Tu t'écoutes trop, j'ai dit à ma mère, tu t'écoutes trop. 88 ans, t'as la vie devant toi. C'est pour ça que je vais voter Ségolène Royal. Parce qu'elle pense comme les Anglais. Alors donc, ça va changer. Ça va changer dans le bon sens. En 2007. Ah, il faut bosser.
Oui, bonjour, j'appelle parce que j'ai écouté tout à l'heure le reportage d'aujourd'hui. Sur ces hommes oubliés, les Chibani, et sur ceux qui sont en chemin de le devenir, comme disait joliment l'un d'eux. Donc j'appelle pour remercier Pascal Pascariello d'avoir pensé à eux, de leur avoir donné la parole et puis de les rendre un peu plus visibles. Et puis je voulais aussi les remercier eux personnellement pour leur travail, pour ces bâtiments construits dont ils sont fiers et ils ont raison. Et pour le peu de merci qu'ils ont eu, effectivement, de la France. J'ai habité à Marseille, donc j'ai côtoyé ces hommes et je suis un peu sensible à leur cause. Et un autre homme qui est très sensible à ces hommes, c'est un écrivain. Il s'appelle Abdelkader Djemal. Il a écrit un livre qui s'appelle « Gare du Nord » et qui raconte très bien la vie de ces hommes qui sont entre deux mondes. Et j'ai jamais lu un témoignage d'amour aussi fort entre un homme et puis ses compatriotes. Donc je vous conseille, ça s'appelle Gare du Nord d'Abdelkader Djemal. Et puis dernière chose, je viens de lire dans une revue que je conseille aussi qui s'appelle Respect, car elle a comme objectif de décoloniser les imaginaires et d'essayer que l'on vive ensemble. Donc il y a un article sur les Chibani justement, et comme quoi 4000 d'entre eux n'auraient pas reçu leur avis d'imposition, qui reste le sésame des droits sociaux et qui est donc une manière encore détournée de les faire rentrer au bled. Donc je me suis absentée pendant le reportage, je ne sais pas si vous avez évoqué le problème, mais voilà, c'est 4000 personnes sans avis d'imposition qui vont devoir repartir. Donc merci encore pour ce reportage. Au revoir.
Oui, c'est un salut d'un Chibani français de souche, mais bravo pour votre émission, parce que je me suis régalé. En fait, je suis Chibani quand même, à 68 ans, enfin sur la voie du Chibani, comme dit l'autre, parce que j'ai passé quand même 15 ans de ma première jeunesse en Égypte, donc je suis assez familier le monde arabe, et en plus j'ai travaillé surtout 15 ans dans les usines en compagnie de gens de ma génération, surtout des Algériens, Marocains, Tunisiens, etc. Et donc je me retrouve en pleine familiarité avec mes copains Chibani, quoi. Et ça me fait vraiment marrer, d'autant plus que récemment j'étais à Marseille. Alors que je suis à Saint-Nazaire, où je me fais appeler Chibani très sympathiquement par des Maghrébins. Et donc à Marseille, je me suis fait presque agresser par des jeunes voyous au panier. Et puis tout d'un coup, je leur dis « Non, mais attends, je suis Chibani, moi, hein, tu me respectes. » »« Ah, bon, d'accord, t'es Chibani, bon, d'accord, on te respecte. » Donc voilà, c'était une petite anecdote pour dire que... que bravo pour votre émission, et puis qu'il y a aussi des Chibani français de souche, et puis qui sont très proches des autres, quoi, voilà, en toute humanité. Allez, à bientôt, ciao. Rémi à Saint-Nazaire.
Allô, oui, salut Daniel, c'est Baïja. J'ai écouté avec grande attention l'émission encore d'aujourd'hui sur les Shibani. Donc effectivement, ça évoque plein de choses pour moi. Juste quelques petites précisions. Il faut savoir que parmi les 90 000 immigrés de la première génération qui ont participé effectivement à la construction de la France, en fait, il y en a, alors c'est des chiffres qui datent de la fin des années 80, il y en a 16% qui décèdent avant la liquidation de leur retraite. Donc en fait, c'est de l'argent qui reste dans la caisse de la sécurité sociale et qui ne sera jamais redistribué, parce que les épouses étant dans les pays d'origine, eh bien, elles ne peuvent pas faire de dossier de reversion. Donc cet argent-là, hein, qui correspond à leur cotisation, à ce qui a été provisionné, ne sera jamais reversé. Ensuite, les gens se posent sûrement la question de se dire, mais attends, pourquoi il reste dans un hôtel miteux, une chambre pourrie, alors qu'il pourrait rentrer chez lui? Il faut savoir que en France, pour avoir une retraite complète, il faut avoir travaillé un certain nombre de trimestres, donc ce qui est le cas souvent de ces gens-là, mais il faut avoir été déclaré. Et comme souvent ils ont travaillé sans rien demander avec une carte de comme main d'œuvre, hein, comme disait le monsieur, si leur patron ne les ont pas déclarés au moment de la liquidation de la retraite, ils se retrouvent le bec dans l'eau parce qu'ils se retrouvent avec une toute petite retraite. Alors vous me direz, et la solidarité nationale? Eh ben, la solidarité nationale, elle ne marche que pour les Français. Et comme ces gens-là ne sont pas de nationalité française, ils n'ont pas le droit à ce qu'on appelle le FSI, c'est-à-dire le supplément que verse l'État pour compléter le minimum de retraite, c'est-à-dire qu'en France, on doit au minimum toucher 460 euros. Voilà. Donc, avec ces petites retraites, on les complète avec du RMI, sauf que le RMI, il y a une exigence de résidence en France. Si jamais la personne repart dans son pays d'origine, elle n'aura pas le complément RMI lui permettant de toucher au minimum 400 et des poussières par mois, en euros bien sûr. Ensuite, si jamais la personne a eu tous ses trimestres, a été déclarée, a le droit à une retraite complète, si jamais elle décide de repartir dans son pays d'origine, là, il y a une décote qui est appliquée par l'État français, toujours, par la Caisse de Sécurité Sociale qui verse les retraites, en fonction du niveau de vie dans les pays d'origine. Donc, dans les pays du Maghreb, eh bien, on recalcule en fonction du pouvoir d'achat dans les pays maghrébins et on ne reverse qu'une partie de la retraite que le monsieur a travaillé toute sa vie, qu'il a liquidé tous ses droits et qu'il a le droit à, disons, 800, 900 euros. Donc, il est obligé de rester en France. Si jamais il est en Afrique, c'est encore pire parce que la décote est encore plus importante puisque forcément, il faut encore moins d'argent pour vivre dans ces pays à très faible pouvoir d'achat, d'où la présence sur le territoire français de tous ces immigrés Shibani, très vieux, sans famille, et vivant dans des hôtels miteux. C'est très important cette émission, j'espère que beaucoup de monde l'écoutera malgré le pont de l'Ascension. Merci de participer, à l'éducation de la population. J'attends toujours votre appel au sujet de notre journée de commémoration du 25 juin, où il y aura plein de monde, plein de jeunes, plein de graffeurs, plein d'artistes, plein de gamins. Donc...
Merci Baïja, sauf que nous on n'a plus rien à faire, là vous avez tout dit, vous avez tout expliqué, c'est exactement le thème de l'émission d'aujourd'hui. Merci, ce qui me fait plaisir là-dedans, c'est que c'est des messages de Baïja, de Khadija, de Fatima, de Nasser, etc. Et je me souviens quand, bien longtemps, en 1991, il y a 15 ans, on avait fait une série d'émissions sur le 17 octobre 1961, ces journées, la fameuse journée portée disparue, et je me souviens qu'on se disait, mais personne ne réagit dans la communauté issue de cette immigration, personne ne réagissait, il n'y avait pas de Fatima, il n'y avait pas de Baïja, il n'y avait personne qui réagissait, et on disait, on n'a pas réussi, et voilà, mais le temps passe, et peu à peu, ben voilà, les Khadija, les Fatima, les Baïja, les Nasser et les Mohamed, et ben, peu à peu, se mêlent de tout ça, et on en est très heureux. Aujourd'hui donc, deuxième volet du reportage de Pascal Le, Pascal Yello à Marseille avec les Chibani de Marseille, leurs problèmes, comment effectivement ils sont dans cet exil, cet entre-deux, et comment par des tracasseries administratives assez compliquées et assez tordues, ont l'administration française, c'est-à-dire nous autres, c'est-à-dire, là en l'occurrence c'est la ville de Marseille, mais disons les pouvoirs publics, font de ces Chibani les plus maltraités des retraités. C'est notre thème d'aujourd'hui. Et puis autre chose qui n'a rien à voir, mais qui est très très important, c'est lundi prochain, le 29 mai. Tout le monde commémorera le nom de l'an passé, et nous aussi très probablement, mais le soir... Au théâtre de Jazet, on se retrouvera tous. Le théâtre de Jazet, c'est au 41 boulevard du Temple, à Paris, au métro République. On se retrouvera tous à partir de 20h30 pour faire quoi? Eh bien, pour réhabiliter BHL. Vous savez que ce grand philosophe français, cet ambassadeur mondial, et surtout aux États-Unis, de la culture française et même européenne, eh bien, a été traîné dans la boue, injustement, bien évidemment, par toute une série de soi-disant intellectuels, soi-disant journalistes aussi incompétents que hargneux. Eh bien, nous réhabiliterons lundi soir au De Jazet, en musique, s'il vous plaît. Je vous rappelle les paroles de la chanson, vous pouvez tout de suite les mémoriser. Attendez, c'est pas facile à... Si, c'est entartons ce pompeux cornichon. Entartons ce pompeux cornichon. On reprendra ça en chœur avec des témoignages, des contributions de journalistes, d'avocats, de corbeaux divers et variés. Donc, et n'oubliez surtout pas que si vous venez avec une chemise blanche ouverte jusqu'au nombril, vous aurez une réduction très importante. Voilà, ça c'est lundi, 20h30, théâtre de Jazet, 41 boulevard du Temple à Paris. Les Chibani dans quelques instants à Marseille. Auparavant, encore un bouquet de vos messages, amis auditeurs, que vous avez laissés au 01 56 40 37 37.
Ouais, salut Daniel. Écoute, on est vraiment dans la merde. Hein, il y a un gros problème. Il y a entre Barthez et Coupé, et je sais pas comment ça va finir. Qu'est-ce qu'on va devenir? Allez, salut, c'est Maurice. Ciao.
Comme c'est pathétique, ces ouvriers de la Sojarma remettent un t-shirt. Sojarma vivra à Mérignac, à Dominique de Villepin, qui le portera, on n'en doute pas, au prochain conseil d'administration de ADS. Salut à tous, c'était Bruno à Toulouse.
Bonjour, c'est le bateau ivre de l'île de Groix. Le repère, il a lieu, comme d'habitude, à 21h ce soir. Et pour les gens qui connaissent pas l'île, il faut traverser l'île, aller vers le sud. On n'est pas sur le port d'arrivée, on est dans le petit port de Locmaria, au sud de l'île. Et la soirée, et c'est ce qu'on en fait. Il n'y a pas de meneur, il n'y a pas de thème annoncé et pas d'animateur. Donc la soirée, c'est ce qu'on fait dans le respect et l'écoute de l'autre et dans le bonheur. Bonsoir.
En ce jour de l'Ascension, les fidèles du repère de Tonquédec dans les Côtes d'Armor sont invités à venir se recueillir et méditer ce soir à partir de 20h en notre chapelle Café de Bretagne Tijano, route de Bullien pour notre grand-messe mensuelle. La soirée sera riche en événements puisque nous prierons pour le cher frère Daniel M, puis nous s'accoudirons pour exorciser l'ultra-libéralisme et le bouté hors de France. Donc vaste programme, venez nombreux.
Je suis allongé, je regarde la télé, j'entends la radio. Des fois, j'entends la radio, des fois, je regarde la télé. Ce qui se passe, c'est tout. Sinon, c'est... Bon.
Salut, c'est Daniel Mermel, à Bassi j'y suis avec Pascal Le, Pascal Yello, les Chibani de Marseille.
Flight number 2, arriving from...
Ça y est, le petit déjeuner est prêt. Je vous en prie.
Oui, c'est tout. Non, ça, je l'ai... excusez-moi. Je l'ai fait, mais sinon, je suis là, parce que c'est un bras. Allez, allez, je suis là. Voilà, donc... je prépare le petit déjeuner. Habituellement, j'ai des bénévoles, une bénévole, quelquefois deux, des dames qui habitent le quartier, qui viennent me donner un coup de main.
Et alors, Nadia, expliquez-moi, on est donc au centre social, au cœur de Belzunce. Et chaque matin, c'est le petit déjeuner pour l'ensemble des Chibanis.
Tout à fait. Alors, le petit déjeuner, c'est une des actions importantes du centre social pour les vieux migrants. Il est réservé pour ceux qui habitent les hôtels meublés et les foyers sur la côte rap, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de prendre leur petit déjeuner dans leur domicile, enfin, dans leur chambre. Il y en a même qui viennent de vraiment loin. Hein, ils viennent à pied, ils marchent et autres, juste pour venir prendre le petit déjeuner. Et parmi eux, il y a même des malades, vous avez dû rencontrer, qui viennent pour ça. Après, en général, ils restent. Il y en a qui restent dans la salle d'attente. Ça, c'est incroyable. Ils restent dans la salle d'attente parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Donc, surtout en hiver, vu qu'il fait très froid, que dans les hôtels meublés, ceux qui habitent dans les environs, de toute façon, les chambres ne sont pas chauffées, que du coup, ils viennent prendre leur petit déjeuner ici et ils y restent dans la salle d'attente, juste assis sur des chaises, rien que pour tuer le temps, on va dire, entre guillemets, et pour pouvoir être au chaud... En général, ils y restent jusqu'à 11 heures quelquefois, puis après, ils sont bons.
Et dans le centre-ville, là, c'est un petit peu comme un lien social pour eux, non ? C'est un repère ?
C'est un repère, effectivement. C'est d'ailleurs, il me semble, le seul repère au niveau du quartier pour les vieux migrants, donc surtout originaires du Maghreb. Bon, on peut dire aussi, il y a certains cafés, mais il faut consommer dans un café, donc c'est pas toujours pour eux non plus. Les mosquées, d'ailleurs, les vendredis, pour les heures de prière, ils y vont tous. Et on voulait ouvrir un espace pour eux, un centre d'accueil de jour, on va dire, qui serait donc un lieu où ils prendront leur petit déjeuner, où ils y resteront pour faire leurs activités, où c'est l'endroit aussi où ils feront tout ce qui est suivi administratif, aussi pour le lavage des vêtements et tout, parce que là, nous, on a des conventions avec des laveries, donc on leur donne des tickets, ils vont dans les laveries pour laver leur linge une fois par semaine. Les personnes âgées, vieux migrants que nous recevons le plus sont ceux qui sont isolés, donc qui n'habitent pas dans des appartements, qui ne sont pas dans des cités, qui sont dans des foyers ou qui sont dans des hôtels. Le réseau d'amitié, il existe entre eux, mais ça s'arrête là. Maintenant, c'est dû à quoi ? Parce que nous, en tant qu'adultes, on n'a pas fait le jeu de faire cette information, il y a de ça. Il y a que chacun a ses problèmes. Effectivement, il n'y a pas une réelle solidarité ou un réel travail intergénérationnel. Nous essayons de le faire, nous, dans le cadre de certaines activités, mais ça reste ponctuel. Est-ce que maintenant, même dans le cadre des familles, ça existe aussi ? Effectivement, ça existe aussi. Par exemple, il y a des familles qui sont là depuis 3-4 générations. Les parents, les enfants, les grands-parents, ça reste qu'ils sont en contact. Ils sont pas si isolés les uns que les autres. En tout cas, ils sont peut-être pas aussi liés qu'ils le sont encore dans les pays du Maghreb, si je ne crois que ce cas-là, où le grand-père a encore le droit de dire à sa petite-fille de ne pas mettre cette jupe qui est trop courte, un exemple. Mais ça n'empêche que ici, un grand-père, je crois pas qu'il ait quoi que ce soit à dire à sa petite-fille. Elle en verra vite fait, bien fait, balader. Hein, ça, il me semble, hein. Écoutez, moi je suis d'origine algérienne, je peux vous dire que j'ai deux filles, elles font ce qu'elles veulent, on a fait le choix, elles nous le plaquent comme ça à la figure, hein. Vous nous avez ramené ici, moi je peux pas jongler entre ici et là-bas, ton nombril en l'air c'est un peu trop, ça colle pas, ça marche pas, elles comprennent pas, donc, et pourtant on est dans une famille. Et alors, qu'est-ce qu'il en est des autres jeunes vis-à-vis de ces vieux qui sont isolés, si je reviens encore à eux, je suis sûre qu'effectivement, ils les ignorent. Parce que qu'on le veuille ou pas, même en Afrique, même dans les pays d'origine, ça change aussi. Les conditions économiques, on fait que maintenant les jeunes, on s'occupe encore de son père, de son grand-père ou autre, mais de moins en moins. On n'a pas trop envie de partager le même appart, alors qu'avant, ils vivaient à 17 dans un appart et c'était normal. Donc, les choses changent de partout. Mademoiselle Zouk, je suis
vous habitez où?
Là, au 2 rue de Bernard de Poix, là, quand vous montez, là, dans un hôtel. Oui. Eh oui. L'hôtel Poré.
Vous êtes arrivé quand en France?
Longtemps que je suis arrivé en 63.
1963.
Oui, je suis ancien maigré, c'est pas de 10 ans ou 15 ans. Depuis 63 jusqu'à présent, c'est... je suis à 65 ans.
Et vous, votre famille, elle est...
Elle est à l'Algérie toujours. Elles sont là-bas toujours. J'ai pas de logement, comment êtes-vous que j'ai à mettre les enfants et la mère et tout? Je peux pas.
Vos enfants, ils ont quel âge?
Ah oui, elle a 19 ans, 17 ans, 14 ans. Et j'ai deux grandes. Il y en a qui fait 27 ans, il y en a qui fait plus de 30 ans. J'ai quatre filles, trois garçons. Je descends tous les deux, trois mois, je redescends. Il est toujours à son charge. Il y a les quatre derniers, il a l'école et tout le truc. Et les autres, ils sont gras, ils n'ont pas travaillé, rien du tout. C'est sur ma charge toujours. C'est moi qui se démerde.
Et vous avez combien de retraites par mois?
J'ai 619, 600. Ça dépend que moi. 619, 620.
Cacher ce vieux que l'on ne saurait voir, les plus maltraités des retraités. Et Chibani, ça veut dire vieux en arabe. Je crois que c'est à peu près ça le sens que ça a. Même si ça en blesse certains, on a vu Amar, pas encore vieux quand même, en route pour être Chibani, mais pas tout à fait encore. Je ne sais pas si ces petits qu'on vient de rencontrer, que Pascal vient de rencontrer dans ce foyer, ce centre social à Belzins, pour le petit déjeuner, parlera de ça. Mais il va parler de sa vie, il va parler de sa vie ici, sa vie là-bas, comment il a quitté là-bas pour venir ici et comment il est coincé entre deux vies, en somme. C'est le profil habituel, le blues habituel, l'hésitation connue, archi connue de l'exil. On est venu, on a quitté la terre natale, espérant vivre mieux ailleurs. Il fallait faire de l'argent et on est venu en France, on est venu de son propre gré ou pas. On venait chercher à l'époque, dans la fin des années 50, début 60, on recrutait. C'était les 30 Glorieuses, il y avait des boulots en France, en veux-tu, en voilà, et évidemment, tout logiquement, on allait chercher la main-d'œuvre là où elle était la moins chère, la plus vulnérable et la plus exploitable, logique capitaliste bien connue. Le temps est passé, les choses ont changé, on connaît tous les problèmes qui touchent tout le monde d'ailleurs aujourd'hui, mais qui touchent évidemment plus spécialement les plus vulnérables quand ils commencent à se faire tard dans la vie, eh bien il y a la retraite. Et beaucoup de ces Chibani ignorent leurs droits. Certains sont illettrés, n'ont pas toujours conservé les papiers d'un hôtel à un foyer, d'une valise l'autre, d'un bord à l'autre de la Méditerranée. Ils ont souvent bossé pour des employeurs pas toujours très délicats, qui ont oublié de les déclarer. Et aujourd'hui, pour bénéficier du minimum vieillesse qui est autour de 600 euros, pour ça, ils doivent résider en France au moins 6 mois de l'année. Ce qui les oblige évidemment à cette obligation de résidence les oblige à d'incessants allers-retours, coûteux allers-retours qui conduit certains à ne pas retourner au pays, puisque évidemment au pays, c'est quand même plus difficile de se faire soigner. Il n'y a pas les mêmes conditions. Alors, la plupart vivent dans ces foyers ou dans ces hôtels peu adaptés, évidemment, à la vie de retraités et à la perte d'autonomie qui va venir et qui viendra plus tôt pour ces travailleurs-là. On a calculé que cette perte d'autonomie pour les origines, comment disait celui d'hier, ce jeune d'hier qui n'est pas des Français de Louis XIV. Alors pour les Français de Louis XIV, c'est 82 ans, intervient ce virage de du grand âge. Et pour les Chibani, ils ont fait des boulots très durs, ils ont travaillé dans les hauts fourneaux, ils ont travaillé dans les mines, ils ont travaillé dans les bâtiments, dans le travaux publics, etc., des boulots très durs, et c'est à 75 ans. Il y a une différence de 10 à 20 ans d'usure physique entre les Chibani et les autres travailleurs, les autres salariés. Bref, vous avez compris, la France se conduit mal, très mal, vis-à-vis de ceux qui ont contribué à faire ce pays. Quand on dit la France, il faut pas non plus se tromper, c'est pas tous les Français, il s'agit pas de jeter une culpabilité collective, certainement pas, mais voir la responsabilité de chacun, la responsabilité des enfants de ces immigrés. On entend Nadia qui, elle, prend ses responsabilités, on en verra d'autres, mais surtout, évidemment, la responsabilité, elle est celle de l'administration, elle est celle de ce pays, elle est celle aussi, en l'occurrence, de la ville de Marseille. C'est notre sujet jusqu'à 18h sur France Inter, la base officielle.
زمان غاب خياله ما بان وانا ما زال في بالك خطرات يبان لي كل منهم خطرات نشوف قبالك خطرات يبان لي كل منهم خطرات نشوف قبالك هجو علي تفكير منسى شي والصبر فناني نتفكر الايام يحصراها يذكرهم من زني طاروا مثل الطيور سافروا راحوا البر الخالي خطرات يبان لي كل منهم خطرات نشوف قبالي خطرات يبان لي كل منهم خطرات نشوف قبالي كيفاش راح كيفاش تبدل الله ذاك الزمان قب خياله ما بان وانا مازال في بالي خطرات يبان لي كل منهم خطرات نشوف قبالي خطرات يبان لي كل منهم واخترت تشوفهم قبالي
Regardez, regardez-les, tous pensifs, tous on a l'impression qu'ils sont ailleurs, qu'ils pensent, bon voilà, il y en a qui sont seuls, il y en a qui discutent entre eux, mais vraiment, on voit la misère. La misère après avoir travaillé sans doute pendant 30 ans.
Sur un parking et sur une espèce de plaque.
Entre deux voitures presque, on a l'impression qu'ils s'effacent, ils essayent même de s'effacer. C'est l'image la plus triste qu'on voit et... Tous les jours, c'est pas évident.
Et en même temps, quelle dignité.
Oui, absolument. L'impression que j'ai quand on les regarde comme ça, regarder l'autre à planter comme ça, regarder, mais ils regardent rien, on sait même pas qu'est-ce qu'ils regardent. Ils sont là à faire passer le temps, à tuer le temps. Je suis sûre qu'ils sont en pleine introspection, on va dire, et ils vivent un échec. Même si le mot, ils ne le disent pas, ils ne le connaissent pas, je suis sûre que quelque part, ils doivent être vraiment malheureux. Vraiment malheureux parce qu'ils sont coupés de tout. Coupés de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Je parle bien de ceux qui ont laissé leur famille là-bas. Parce qu'ils ne les ont pas vus grandir, donc la rupture est liée de fait. Coupés même de leur épouse, parfois, qu'ils ne les connaissent. Oui, elles se connaissent que durant des vacances. Je sens leur profondeur, même s'ils ne le disent pas, quoique souvent ils le disent, si je savais, je serais jamais venue. Ils le disent, mais ils disent en même temps, mais si j'avais ma famille avec moi, je suis sûre que ce serait mieux.
Exactement, ils naviguent voilà. entre les deux.
Mais sauf que, il aurait fallu aller interroger ceux qui sont en famille ici, est-ce qu'ils disent eux aussi la même chose? Je ne suis pas certaine, je ne suis pas certaine du tout, même si eux ont un bon lit, même eux, ils sont quelque part coupés de quelque chose, ils sont là-bas étrangers, ils sont ici étrangers... C'est l'exil. Je ne sais pas si c'est partout dans le monde, c'est comme ça l'exil, mais quand on voit ces images-là, c'est pas évident.
Et oui, c'est partout comme ça dans le monde, l'exil. On le verra dans les reportages qu'on présentera dans le début de la semaine prochaine, à Dubaï. À Dubaï. Et bien, les travailleurs de l'Inde, du sous-continent indien, des Philippines, sont en train de vivre, ils sont plus jeunes en général, sont en train de vivre ce que les Shibani ont vécu. J'ai croisé hier un ami malien qui travaille ici à la maison de la radio qui disait sa colère, sa rage de la visite de Sarkozy à Bamako, comment les gens de Kaye, au nord du Mali, d'où viennent la plupart des Maliens qui vivent en France, étaient furieux, fous de rage et se sont sentis humiliés, révoltés par l'intervention du ministre de l'Intérieur à Bamako qui a dit aux Maliens, droit dans les yeux, la France n'a pas besoin de l'Afrique. Il y a eu un moment où la France avait besoin au moins de l'Afrique du Nord. Et ces Shibani sont donc venus à cette époque-là. Et parmi eux, il y avait Septi.
C'est Septi.
Septi.
Je m'appelle Septi, oui.
Et on s'est vu en fait au petit déjeuner du centre Benzès, social.
Voilà, dans le centre social de Benzès, là.
Vous y allez tous les matins au petit déjeuner?
On va y aller sauf le samedi, dimanche, qu'on va y aller pas parce que c'est fermé. On est toujours malheureux de domicile, malheureux de ça, malheureux de tout. Et ce qu'il y a qui nous a fait vraiment dégoûté, c'est l'hôtel, il n'est pas propre. J'ai mon domicile, j'ai le premier étage, le deuxième. J'ai tout construit, il y a deux garages. En bas, et puis moi j'ai habité au premier. J'habite dans une ville, ça s'appelle Olma. C'est à côté de Sétif.
Et à Sétif, c'est là où il y a eu le massacre en mai 1945.
Wow. Mon père, il était tué par la France, mais je...
Le père, bon... il a été tué par la France.
Ah oui, le massacre de la guerre de l'Algérie. Mon père, le frère de mon père, c'est mon cousin, toutes les...
Mais pourquoi ils ont été tués?
Eh ben, il y a des mouchards qui sont là-dedans. Ils disent, voilà, c'est lui qui fait le contre, c'est lui qui le fait contre. Ben, hop. À ce moment-là, c'était en 1956, le 19 juin. Quand je suis rentré l'après-midi, vers 3h, 4h, l'armée française nous a brûlé toute la maison. Je vois toutes les femmes bleues, les enfants, les autres étaient morts. Eh ben, moi j'avais 14 ou 15 ans. Avec ma mère et mon frère, et on a déplacé parce que l'armée est restée 2 ou 3 jours. Il vient avec l'avion, le contrôle. Nous, on était rentrés dans un village qui s'appelle Satarno.
Et vous êtes caché avec votre maman.
Jusqu'à la débonda. À la fin de compte, le pauvre malheureux, il est toujours étrine. L'écraser même par l'État algérien. Il ne nous a fait rien du tout. C'est ça que j'ai regretté. Si je ne suis pas ici en France, que j'ai travaillé, que je suis... J'en fais pour mes enfants. Au ciné, il aurait été crevé. Quand la France les a donné le débonda à l'Algérie, il y a un bureau qui s'est été ouvert, on appelle Mondavre.
Un bureau de main d'œuvre qui
s'était ouvert en Algérie? Qui s'était ouvert en Algérie, si lui qui voulait travailler, il puisse finir en France.
Et vous alliez en France, le pays qui avait tué votre père?
Non, et le Mondavre dit, si vous voulez travailler, vous rentrez en France. quand j'étais perdu, je me suis engagé, j'ai allé travailler, je me mets pas dans la tête, c'est qui c'est qui me tue mon père. Bah, la guerre, c'est la guerre. La guerre. Tout le monde, il aurait été besoin de l'argent pour venir travailler.
Vous aviez besoin d'argent?
Quoi? Si on n'était pas besoin d'argent, pourquoi on s'en venait? Moi, je suis rentré en 63 ici.
En 63?
Oui. J'avais peut-être 21 ans ou 22 ans.
Et donc, vous en rappelez de ce jour où vous êtes parti?
Ah, bien sûr, je me rappelais, oui. Le 2 au 3 mai, je suis parti de l'Algérie, je suis rentré là vers le 5 ou 6 mai 63. On aurait été fier, on était bien content d'y aller traverser pour voir gagner le pain. Parce que c'est, quand on travaille, on a l'argent, on fait ce qu'on veut. Voilà.
On était fier.
Ah oui, j'étais fier, vraiment, vraiment fier. J'ai descendu ici à Marseille, j'ai pris le train. J'ai une tante, elle était en France, à Rouen.
À côté de la Bourgogne.
Oui. J'ai suivi deux trains ici de Marseille, j'ai descendu à Rouen. Le train, chaque gare qui descend, qui freine, j'ai descendu par terre, j'ai demandé le contrôle. Monsieur, voir l'adresse là. Il dit, voilà, restez tranquille, quand on va arriver. Quand tu viens, oh, je te jure.
C'était la première fois que vous preniez le train.
C'est la première fois que j'avais pris le train.
Et vous parliez français?
Non, je ne parle rien du tout, du tout, du tout. Moi, je me parle en arabe, monsieur. Un coup de signe, comme ça, il me comprend, bien sûr, comme je t'ai dit. Et oui, mademoiselle. Alors, quand je suis sorti, j'ai trouvé deux, trois en arabe qui viennent de passer. Parce que les gens, ils habitent hein, dans ce village-là. Les anciens qu'ils ont ici, avant. Ils m'ont emmené directement dans le centre de foyer. Là, j'ai commencé à travailler.
Et vous avez commencé à travailler dans quoi, alors?
J'ai travaillé pendant deux ans et demi, ou trois ans, dans le chantier. Fait le béton. Tu connais le béton?
Ouais, la bétonneuse, ouais. Le truc qui tourne.
Il tourne, il fait des parterres. Il y en a qui fait le ferraille, il y en a qui fait le poiseur, le poids. Le ferraille, c'est plus dur. On coupe les ferrailles. Et ben, heureusement, on avait un cisaille électrique. Parce que si tu coupes avec un cisaille à la main, tu n'arriveras jamais de couper une ferraille comme ça. Un jour, le grutier qui tourne la grille, là, il est parti en Algérie vacances. Il y a le chef, il me demande, alors, Septi, si tu connais un peu conduire la grille.
La grue.
Oui, la grue.
C'est mieux, vous êtes assis.
Oui. J'ai dit oui. Moi, je ne suis jamais touché. Tu étais bien, j'ai tout compris. Je tourne dans la cabine, là, il y a le machin, une boîterie comme ça, il y a tous les boutons. Pendant 8 jours, ça y est, je me suis spécialité.
Je te jure, dit Septi. Alors voilà, le récit de Septi. Et on va se tourner vers Émile Temim. Émile Temim est historien, il est professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Provence, il est directeur du groupe d'histoire à l'École des hautes études en sciences sociales, etc., etc. Et surtout, il est un spécialiste très compétent de l'immigration, notamment à Marseille. Il a publié avec Abdelmalek Sayad un ouvrage sur le choc de la décolonisation et les données nouvelles de l'immigration. Alors, le regard d'un scientifique, d'un historien, en l'occurrence, sur cette migration.
La migration algérienne, elle a commencé en 1946. Elle a continué évidemment dans les années 60, au moment de la grosse migration algérienne et après les accords d'Évian, après l'indépendance. Et c'est continué par le regroupement familial après, jusque dans les années 70. Donc, migration, effectivement, occupe une place vraiment importante, avec une assez grande diversité, justement, dans le comportement, dans l'attitude, dans le rôle même dans la ville. Ceux qui vendent de la viande halal, par exemple, ça marche très bien. Il ne faut pas croire que tout migrant d'origine algérienne, voire algérien, est un pauvre air. Mais c'est vrai que la plupart sont venus comme travailleurs immigrés, travaillant. En quoi travaillait-on? Bon, moi je les ai vus, je les ai trouvés dans les industries traditionnelles qui sont mortes aujourd'hui. Hein. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, on les embauchait en tant que journaliers. Ils venaient, ils travaillaient, on les embauchait pour un jour, deux jours, trois jours, quelquefois des semaines. Ils remplaçaient les Italiens, c'était les Italiens qui faisaient ça. Marseille était une ville à construire, à reconstruire, Et les types, ils venaient, ils travaillaient dans le BTP. Au besoin, ils recevaient une formation en Algérie tant que l'Algérie était encore sous autorité française. Après, ils recevaient une formation en arrivant. Ils sont quand même à emploi temporaire. La précarité. Il y a même un cas très particulier, c'est les Marocains qui sont venus comme pêcheurs. Ils ont remplacé un petit peu les Italiens là-dessus, mais ils dormaient dans le bateau. C'est plus confortable que de dormir dans certains meublés encore utilisés du côté de Belzunce. Après, il y a eu la construction des foyers. Mais la construction des foyers a été relativement tardive. Hein. Donc ça s'est multiplié. Et ils sont restés, soit dans les hôtels meublés, soit dans les foyers, ils se sont trouvés dans des conditions telles que, au fond, c'était leur monde. Ils sont entre eux quand ils vont au travail, parce qu'on embauche de la même manière, par filière. Le contremaître, c'est souvent un Algérien. Ils sont identifiés, si vous voulez, à un quartier qui est leur lieu de travail, qui est leur lieu de... Donc c'est un monde clos. Et quand on leur dit, par exemple, dans le cadre de la restructuration actuelle, il va falloir que vous vous déplaciez. On leur dit pas, il va falloir que vous vous déplaciez. Mais ils n'en ont pas les moyens de rester là. Quand on va passer du loyer ou du sous-loyer d'un tel meublé à un appartement, bon, ils n'ont pas les moyens de se payer un appartement. Vous savez, le problème de l'argent, c'est un problème fondamental. Parce que c'est une justification pourquoi je suis parti. Je suis parti parce que je devais gagner de l'argent. Alors, et ceux qui n'en ont pas gagné ou ceux qui se sont retrouvés dans des conditions trop difficiles, ils veulent pas montrer ça. Alors, ce qui se passe, effectivement, c'est qu'ils n'ont plus le monde du travail. Ils sont venus pour travailler. Ça, c'est un vieux de Renault qui m'avait raconté ça. Il m'avait dit, moi, qu'est-ce que je suis maintenant? Avant, j'étais ouvrier. Maintenant, qu'est-ce que je suis? Je suis plus rien. Leur identité, c'était le travail. Ils étaient un ouvrier. Même s'il était un OS, il était un ouvrier. Justement, c'est quelque chose qui est difficile à faire passer aujourd'hui, parce que l'idée de la dignité du travail, c'est quelque chose qu'on a oublié. C'est une reconnaissance. Vous êtes quelqu'un. Et quand on n'a rien d'autre. Alors, la vieillesse, ça arrange pas les choses. Ils sont usés à 50 ans, complètement. Et la maladie, quelquefois, mentale, parce que c'est des déracinés. Hein. C'est pas facile d'être déraciné. Bon, alors qu'est-ce qu'il leur reste en plus? Alors là, on revient à l'argent. Il leur reste peu de choses. Même s'ils voulaient se déplacer, même le voyage en Algérie, quand ils le font, ça coûte de l'argent. Donc, et actuellement, il y a des problèmes, en particulier sur les vieux qui vont faire un petit tour en Algérie. On leur dit, mais vous n'avez pas résidé...
Qui irradie des impôts.
Voilà. Ça, c'est une... Alors, j'ai beau être historien, je peux dire que c'est une saloperie. Enlever, en quelque sorte... C'est pas des privilèges, c'est les droits qu'ils avaient, ces gens-là qui avaient acquis ça. Bon, c'est absolument immoral.
Manquait ou pas l'Algérie au début?
Moi, pour moi, je te jure, hein, ça ne me manque rien. J'ai pensé rien qui me manque. Parce que j'étais fier de travailler, gagner l'argent, passer bon temps, tout ça, c'est tout.
Passer bon temps, vous avez rencontré des femmes?
Bien sûr, quand j'étais jeune, c'est la prochaine fois quand j'ai rentré en Algérie, je vais rentrer au mois de mai, là, à la fin de quoi. J'ai une photo de... Je vais te la montrer.
Mais je pense que vous étiez très beau. Hein.
Merde, c'était genre... Une fois, j'avais fréquenté une fille. Il y a plus de 30 ans que je connais. Faire 64, 66. J'ai dit, je vais me marier avec toi. On a palatiné un peu. On était voir le ménage là aussi. On a passé une bonne journée. Je l'ai vu manger avec moi. Je l'ai vu tourner. Je fais ça. J'avais une moto. Mobilette, comme on appelle ça. Moto bécane. J'avais amené la fille derrière moi. Quand on a sorti du village, il m'a dit, donne-moi, je vais les conduire. C'est un jour. J'avais le casque, je l'ai donné à elle. Moi, j'étais derrière. J'ai dit, écoute, où tu vas avec moi, là? Et j'ai crié comme ça. Et où tu vas, où tu vas? Il m'a fait rentrer avec elle. On va aller coucher chez moi. Et j'ai dit, non. Parce que j'ai habité avec les gens, comme ici. Avant, c'est pas un foyer, c'est pas un hôtel. C'est des bungalows.
Vous habitez dans
des bungalows? Dans les bungalows, mais... Deux, trois, parce qu'on travaille dans un chantier qui nous a donné les bungalows. On habitait là-dedans, on voulait manger là-dedans et tout. Les bungalows, c'est grand. C'est... Mais je ne la mêle pas avec ces gens-là. Ça me fait mal. Alors je l'ai laissé. J'ai dit, bon, on va se rencontrer dans la journée, c'est tout. Allez, vas-y.
Et c'est comme ça que ça s'est terminé?
Tout doucement, on s'est quitté.
Et vous rendez compte, si vous n'aviez pas habité dans un bungalow, vous auriez pu l'amener le soir chez vous?
Mais j'ai dit non. C'est le chef de chantier, ils savent qu'on l'a mis, les femmes, dans les bungalows. Parce qu'on est travailleurs célibataires, c'est presque interdit, voilà. C'est pas une maison de chez toi, tu fais ce que tu veux. Parce que quand le lendemain il va commencer, il trouve le chantier, c'est pas loin, et il commence la même heure. Là, je regrette, j'ai dit si je suis pas couché avec le bungalow. Si j'avais trouvé une chambre comme maintenant je cherche et je l'ai loué, à ce moment-là, on ne s'y paye pas beaucoup. Quand on travaille, 2 francs à l'heure.
2 francs par heure?
Ben oui, 2 francs. Ouais, on gagne 60 000 francs pour tout le mois. Ah oui.
Bécane, à quoi tient la vie? On va retrouver Émile Témim.
On ne les voyait pas vieillir, c'est-à-dire que brusquement, on se trouve devant un problème. Ces gens, ils ont sans atteint l'âge de retraite, ils sont pensionnés parce qu'ils sont malades. Et qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on n'en fait rien. On n'a pas vu venir ce problème de vieillissement. Une fois de plus, si vous voulez... On a l'impression que les administratifs n'envisagent pas l'avenir. Pourtant, quelqu'un qui est venu à 20 ans et qui a passé 40 ans ici, il va avoir 60 ans, il va être à la retraite, et il aura le droit de toucher sa retraite. Et qu'est-ce qui va devenir? Est-ce qu'on peut pas se poser la question? Est-ce qu'on peut pas? Ça me surprend toujours, l'incapacité administrative.
Est-ce qu'on a tellement raisonné en termes d'immigration utile qu'on en est arrivé au point de ne pas imaginer?
C'est-à-dire, alors là, si vous voulez, c'est de l'histoire même de l'histoire de l'immigration. C'est-à-dire que quand on a commencé à travailler sur les problèmes d'immigration maghrébine en particulier, algérienne en particulier, sont les économistes qui s'en sont occupés. C'est-à-dire que c'était le bassin de l'emploi. Et on revient en ce moment. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle loi sur l'immigration? C'est reprendre cette espèce de leitmotiv. On va prendre des gens et puis on va leur dire après, vous repartez dans votre pays. C'est une illusion, hein. Ça a toujours été une illusion. Jamais, en réalité, ça s'est passé comme ça. Et ça se passera pas comme ça. On en est à la 24e loi, je crois, sur l'immigration, depuis la libération. Bon, on peut en faire encore 24. Ça changera strictement pas.
Quand vous regardez toute votre vie,
je n'aime pas retourner de la voir, c'est ça. J'aime pas, parce que je me casse la tête. Si je retourne en arrière, je commence à penser et je vais être pas normal, sûr, je vais être fou.
Vous aimeriez que vos enfants ils viennent travailler en France?
Non, ils ne travaillent pas. J'aimerais qu'ils viennent passer quelques jours de vacances et puis il faut qu'ils soient rentrés.
Vous ne voudriez pas qu'ils travaillent en France?
Non. Je ne l'ai pas gardé ici. Et maintenant, il n'y a plus de travail, il y a trop de chômage, il y a trop de politique, il y a trop de machins, il y a trop de machines. Trop. C'est vrai, hein, c'est toujours. Non, non, non. Mais là-bas, ils me respectent. Vraiment, ils m'attendent bien. Eh oui. On dit Alhamdoulilah, ça veut dire on espère bien. Voilà, Alhamdoulilah. Tu connais Alhamdoulilah. Voilà. Ma femme me demandait si j'avais un domicile, je peux y aller passer quelques jours de vacances avec toi. J'ai dit, j'ai pas de domicile, je peux pas l'amener dans un hôtel bourré comme ça, mais.
Comment ça se passe quand vous arrivez en Algérie?
Oui, ça passe normal. Ah oui. Moi, ma femme, tous les dimanches, je sors au marché. Parce qu'on fait le marché tous les dimanches. Les choses qui sont très importantes. Moi, je me discute, je me suis en train dans un café jouer. Je rentre le soir, c'est tout. Quand j'ai téléphone, il me dit, toujours quand est-ce que tu viens rentrer? Ma femme, mes filles, tout ça. J'ai téléphoné ma fille. Il dit, papa, quand est-ce que tu vas rentrer? Ça, on a besoin de te voir. C'est tout. Bien sûr, ils sont fiers de me voir. Et comment on dit en arabe? Tu as hashtag. Ça veut que ma. C'est comme on dit, je t'aime. Tu as hashtag.
Tu as hashtag.
Tu as hashtag, oui. Ah oui?
On a appris deux mots d'arabe aujourd'hui. On n'a pas seulement appris Chibani, on a appris aussi Tarouachtik. Ah ah, magnifique. Hein, bonne journée alors. Merci à tous. Merci à ces petits Doulfi. C'était lui qui parlait, ces petits. Merci à Nadia Rali du Centre Social de Belzins. Merci à Émile Témine, notre ami historien. Merci à Amar Ziguitour. Merci Sylvie Mselem du CREOPS. Michel Pirotina et Josiane de l'association Le Rouet à cœur ouvert qui nous avait sensibilisé et incité à venir voir ces Chibani de Marseille. C'était un reportage de Pascal Le Pascariello. À lire Nos ancêtres les Chibani de Sabrina Cassa aux éditions Autrement. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Lidvine Caron et Ludovic Aslo. C'est Antoine Chao et Yann Chouquet qui ont monté et réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Pascal Le Pascariello et de Christophe Imbert pour le répondeur de Là-bas si j'y suis, dont le numéro est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Et n'oubliez pas la grande nouvelle du jour. C'est lundi 29 mai à 20h30. Au théâtre de Jazet à Paris, au métro République 41 boulevard du Temple, que vous pourrez applaudir, nous applaudir. Pété de journalistes, avocats, dessinateurs aussi. Il y aura des dessinateurs du Canard Enchaîné qui seront là pour le procès du siècle. Le procès du siècle qui s'ouvre, c'est-à-dire la réhabilitation de BHL, l'intellectuel français par excellence, l'ambassadeur de la culture et de la philosophie française, l'esprit des Lumières, de Baudelaire à Jean-Paul Sartre, c'est lui. Eh bien, il a été injustement traîné dans la boue ces temps derniers, nous le réhabiliterons donc dimanche, lundi plutôt, à 20h30. Les infos, la pub, direct les infos, voilà, on me dit dans mon casque, donc il est 18h sur Inter. On se retrouve demain à 17h pour Là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laurence Thomas, salut.